querer, tontos.
Le vendredi, le métal fait son show sur Bike FM. Salut à tous, bienvenue dans l'émission Check Me Load, qui chaque semaine, eh bien, vous propose un petit tour d'horizon des sorties du moment. Et en ce 25 septembre, premier vendredi d'automne, eh bien, j'ai trois belles nouveautés à vous proposer. Il n'y aura pas que ça au programme de l'émission, bien évidemment, puisque d'ici une petite demi-heure, je vous proposerai une interview avec un groupe qui va nous emmener dans un univers de SF et de musique instrumentale. Il s'agit d'Entropie Zéro, qui a sorti, alors il y a presque un an, un album qui s'appelle Mind Machine A New Experience, mais voilà, à cause encore une fois du Covid, ils n'ont pas pu faire beaucoup de promos, donc ils rattrapent un petit peu le temps perdu, et c'est un groupe qu'il faut absolument découvrir, Entropie Zéro, parce que voilà, ils nous amènent dans des contrées totalement folles, et ils sont inclassable. Donc ça, on va voir ça tout à l'heure. Ce sera l'interview du jour et puis l'émission se conclura bien évidemment avec la rubrique Sortez Cover. Et aujourd'hui, on va s'offrir un petit voyage dans le temps. On va aller dans les années, à la fin des années 60. Voilà pour ce qui vous attend dans la prochaine heure de ce Check Me Load. Donc première émission de l'automne 2020. Et la grosse sortie du jour, le mastodonte qu'on attendait tous depuis un petit moment, c'est le nouvel album de Deftones qui nous avait bien alléché en sortant un premier titre cet été. Ça y est, l'album est enfin là, il s'appelle Homes. Deftones, c'est un groupe qui est né en 88, qui a plus de 30 ans déjà, c'était à Sacramento, donc sous le soleil de Californie. Il a été créé autour du chanteur Chino Moreno, du guitariste Stephen Carpenter, du batteur Abby Cunningham, et puis du bassiste Chi Cheng. Alors lui, il est décédé en 2013 des suites d'un grave accident de voiture, et depuis, il est remplacé par Sergio Vega. Tout comme Korn ou Limp Bizkit, Deftones, c'est un de ces groupes pionniers de cette scène qu'on va appeler New Metal. Mais ils vont quand même avoir une petite singularité par rapport à ces autres formations, puisque eux, ils vont ajouter des sonorités post-punk, new wave, un univers musical finalement un peu inédit, puisque le combo va pas hésiter à revendiquer comme influence des groupes comme Depeche Mode, Duran Duran, les Cure, des références qui sont aujourd'hui très en vogue, mais qu'il était vraiment pas du tout à la fin des années 90. Et c'est vrai que sur ce point-là, on peut dire que Deftones était un groupe qui était très en avance sur son temps. Alors, avec la sortie de Homes aujourd'hui, Deftones compte désormais 9 albums studio dans sa discographie. Et pour la petite anecdote, les 5 premiers, ils sont paru chez Maverick Records, qui est le label créé par Madonna. D'ailleurs, tout récemment, le chanteur Chino Moreno a donné une interview et il a raconté comment Madonna lui avait offert un poster d'elle totalement nu et qu'elle lui avait dédicacé. Vous pouvez retrouver ça sur internet si ça vous intéresse, voilà. Donc le premier album de Deftones, c'est Adrenaline, il sort en 95. C'est pas un très gros succès à l'époque, ça va le devenir après, puisque le premier gros succès commercial du groupe, ce sera Around the Fjord, paru en 97. J'en avais parlé dans l'émission de Summer Session consacrée au morceau sur le thème de l'été, puisque dans cet album-là, on y trouvait notamment la chanson My Own Summer, qui à l'époque, j'imagine, tournait en boucle sur MTV. Donc à ce moment-là, la consécration, elle est plus très très loin pour nos Californiens, et elle va arriver très peu de temps après, en 2000, avec White Pony. Alors là, le groupe, il est en pleine apogée, et du coup, on en attend beaucoup pour l'album Deftones qui sort en 2003. Alors cet album, il va avoir un gros succès commercial, mais il va avoir un accueil qui, lui, va être beaucoup moins enjoué que pour son prédécesseur. À ce moment-là, l'aura de Deftones s'étiole un petit peu et Saturday Night Wrist, qui sort en 2006, va pas laisser un souvenir impérissable. Le suivant, ce sera Diamond King en 2010. Alors lui, il va déclencher un petit peu plus d'enthousiasme, mais faudra vraiment attendre les albums Koi No Yokan en 2012 et puis Gore en 2016 pour retrouver un Deftones au sommet de son art. Et cet art, eh bien, Deftones le transforme littéralement avec ce nouvel album qui est Homes, qui tutoie les étoiles et qui brille aussi ardemment qu'a pu briller White Pony il y a 20 ans. D'ailleurs, c'est Terry Date, l'homme qui avait produit White Pony, qui s'est chargé de la production de ce nouvel opus qui, à peine paru, est déjà en passe de devenir un chef-d'œuvre. Alors que ce soit de l'intro du disque, qui est d'ailleurs pas sans rappeler un morceau comme Change in the House of Flies, jusqu'au magistral morceau titre qui clôt l'album, Deftones nous assène un déluge d'émotions d'une intensité viscérale, alors qui se fait tour à tour écrasante, incisive, mélancolique. C'est toute une palette d'émotions qui nous attend, et on retrouve la patte de Deftones, mais quand même, il y a quand même de la nouveauté dans cet album. On peut dire que finalement, tout en jetant un œil assez furtif sur son glorieux passé, Deftones avance et avance en explosant tout sur son passage. Toutes les résistances vont leur exploser entre les pattes. Homes, c'est un album qui est poignant, qui est percutant, qui s'inscrit parmi les disques incontournables de cette année 2020. Donc c'est parti pour la nouvelle décharge sonore de Deftones avec un extrait de Homes. Et justement, ça tombe bien, on écoute le titre Homes. Deftones sur Back FM 106.1 dans l'émission Check Me Loads. Vous venez d'écouter le titre Homes, extrait de l'album du même nom. Un titre donc qui clôt cet album et qui est assez exceptionnel en termes d'influence, puisqu'il a cette lourdeur qui est presque proche du metal stoner. Et puis on a aussi à la fois cette espèce de mélancolie qui peut rappeler le son des Smashing Pumpkins dans les années 90. Ce morceau, il est assez exceptionnel, moi je l'adore, mais en tout cas tout l'album est très très bon. Si vous avez aimé les premiers Deftones, je pense que vous allez vraiment kiffer cet album Homes, qui est donc paru aujourd'hui et qu'il ne faut rater sous aucun prétexte. Dans un style totalement différent, autre grosse sortie du jour, c'est le nouvel opéra metal signé Aireon, qui s'appelle Transitus. Donc Aireon, c'est un projet qui a vu le jour aux Pays-Bas il y a déjà un moment aussi, hein, puisque c'est en 95. Il a été créé par le compositeur et multi-instrumentiste Arjen Lucassen. Alors Arjen Lucassen, c'est quelqu'un qui a une carrière assez longue derrière lui, mais on le connaît avant tout et surtout pour cet opéra metal Aireon. C'est lui qui l'a vraiment mis sur le devant de la scène. Qu'est-ce que c'est qu'Aireon ? Eh bien, en fait, c'est un savant mélange de heavy metal, de metal progressif, de power metal, de metal symphonique, auquel s'ajoute, au gré des disques, hein, bien sûr, des sonorités folk, classiques, parfois même électroniques. Il aime bien sortir un peu des sentiers battus, hein, Arjen Lucassen. Alors, il y a deux opéras metal qui, au début, se tiraient un peu la bourre, et puis maintenant, ils sont devenus plutôt potes. C'est Aireon, donc de Arjen Lucassen, et puis Avantasia, qui lui est l'œuvre de l'allemand Tobias Sammet, le chanteur Dead Guy. Voilà, ça c'est les deux gros opéras métal qu'on suit depuis les années 90. Donc le premier volet de Aireon, lui, date de 95, hein, il s'intitule The Final Experiment, et en fait il nous plonge dans un univers à la croisée entre la science-fiction et la fantasy. Ça va devenir un peu la signature de Aireon. Et si Lucassen joue de nombreux instruments sur ses opéras métal, ça l'empêche pas de toujours s'entourer d'une pléiade de musiciens, avec notamment des castings de chanteurs à faire pâlir tout Broadway, hein. Je crois que les plus grands noms de la scène métal internationale ont à un moment participé à ce titanesque projet pour incarner les nombreux protagonistes de cet univers qui est très vaste, ce qui veut dire qu'en gros, si t'es un chanteur de métal à la renommée internationale et que t'as pas été invité à participer à Aireon ou même à Avantasia d'ailleurs, c'est que t'as raté ta carrière, hein. Donc du coup, au fil des disques d'Aireon, on a pu entendre les voix de Bruce Dickinson, Fabio Lione, Andy Deris, Hansi Kirsch, Devin Townsend ou encore Anke von Gisbergen, qui est une grande amie de Lucassen. Là je vous en ai cité une toute petite partie, hein, la liste est vraiment très très longue. Et donc notre néerlandais qui déborde de talent et d'inspiration sort aujourd'hui son 10e opéra métal, hein, ce Transitus, qui se présente sous la forme d'un double album, qui est parfait pour cette période d'Halloween qui s'annonce, puisqu'il s'agit d'une histoire de fantômes qui se déroule dans l'Angleterre du 19e siècle et dont le narrateur n'est autre que Tom Baker. Alors pour beaucoup ça ne dira peut-être rien, mais pour d'autres ça va tilter un peu, puisque ce monsieur, il est connu pour avoir incarné le rôle du docteur dans la série culte Doctor Who, que beaucoup de gens suivent avec assiduité. Donc lui, il est chargé, il est chargé de faire toute la narration qui s'articule autour du projet. Et puis, outre ce casting qui commence fort, on a une liste de chanteurs encore une fois plutôt impressionnante, puisque les différents personnages sont incarnés. Pour les deux personnages principaux, on a pour le personnage masculin Tommy Karevic, donc de Camelot, et puis pour le personnage féminin, c'est Camille Gilbert, une américaine qui chante dans le groupe Oceans of Slumber, un groupe qu'on connaît encore pas beaucoup, mais que je pense va gagner une visibilité assez énorme. Ensuite, on a l'Australien Mike Mills du groupe Toinder, on a l'Américaine Amanda Somerville, on a Paul Menzi qui est l'actuelle voix du groupe The Sweet, on a également Diane Van Gisbergen du groupe Ex Libris, Johan James du groupe Threshold, Simone Simons d'Epica, Marcella Bovio de Mayan, Caroline Wisterdom de The Charms of Fury, et puis on a aussi Monsieur Dee Snider, la voix de Twisted Sister, et puis faut pas les oublier, hein. Alors, eux sont pas des chanteurs, c'est un duo de guitaristes, mais ils sont assez exceptionnel puisque c'est un duo composé de Joe Satriani et de Marty Friedman qui a été notamment le guitariste de Megadeth. Donc voilà, hein, c'est encore une fois impressionnant côté casting pour ce 10e album qui est extrêmement réussi, qui succède brillamment à The Source qui était paru en 2017 et pourtant il avait mis la barre assez haute à l'époque. Donc voilà, Ayreon, il a pas fini de nous étonner. En plus, je trouve que l'histoire est super. C'est accompagné pour la version physique, bien évidemment, d'une bande dessinée. Il innove, Ariane Lucassen, et il le fait à merveille. Voici un extrait de cet ambitieux Transitus avec un morceau qui s'appelle Get Out Now. Et dedans, on retrouve un featuring donc de Dee Snider, Tommy Karevic et Joe Satriani.
Alas, I was afraid of this. Henry indeed betrays his brother Daniel. He tells their father everything. Livid with anger, father summons Daniel to the Great Hall. Nothing good ever happens when one is summoned to the Great Hall by one's father. And to put it mildly, this particular father is not a man to be tampered with. I think it's a pity he was ever born.
You disobey my rules. You don't care at all. You don't give a
Aireon à l'instant sur Bike FM dans l'émission Check Me Load. Vous venez d'écouter le titre Get Out Now, extrait de Transitus, qui sort donc aujourd'hui, le nouvel opéra metal signé par Arjen Lucassen, avec encore une fois un casting absolument éblouissant. Là on a entendu donc notamment Dee Snider, Tommy Karevic, et puis vous avez pu reconnaître le solo de guitare de monsieur Joe Satriani. Aireon qui paraît donc alors double album hein, vous pouvez le trouver en streaming, vous pouvez le télécharger, mais vous pouvez aussi l'acheter dans de très belles éditions avec une BD qui accompagne tout ça. Donc vous avez l'illustration de cette histoire de fantôme qui est très belle et qui pourrait même faire un film. Faudrait qu'il se lance un petit un de ces quatre, monsieur Lucassen, mais je crois que ça le tenterait bien hein, d'après ce que j'ai pu lire dans une interview toute récente. Troisième sortie du jour pour ce Check Me Load du 25 septembre. Alors là, c'est un groupe qui est un petit peu moins connu. Enfin, leur renommée est pas tout à fait aussi grande que les deux groupes qu'on vient d'écouter. Mais c'est peut-être une renommée en devenir. En tout cas, leur discographie, elle est assez exceptionnelle. Ce groupe, c'est The Ocean, qui sort donc aujourd'hui un nouvel album qui s'appelle... Alors là, attention, je vais m'accrocher pour vous donner le nom, c'est un petit peu compliqué. Ça s'appelle Phanerozoic to Mesozoic Cénozoic. J'ai rien oublié, c'est un nom bien compliqué, mais ils sont comme ça, les The Ocean, hein, c'est pas rare. En tout cas, ils nous viennent de Berlin, c'est... Ça existe depuis 2001 et c'est pas vraiment un groupe The Ocean, c'est plutôt un collectif d'artistes qui a été fondé par un guitariste qui s'appelle Robin Stapps. D'ailleurs, après avoir vu défiler une bonne quarantaine de musiciens en ses rangs, bah le line-up de la formation s'est quand même un tout petit peu stabilisé avec l'arrivée en 2009 d'un chanteur suisse qui s'appelle Loïc Rossetti et qui a une puissance vocale assez incroyable. Donc The Ocean, c'est un mélange de post-metal, de sludge, de metal prog, de post-hardcore. À ce jour, ils ont sorti en tout 8 albums, parmi lesquels quelques pépites, hein, comme par exemple le diptyque héliocentrique et anthropocentrique, qui sont parus tous les deux en 2010, et qui représentent une critique philosophique et fondamentale de la chrétienté. Et puis, il y a aussi l'album Phanerozoic One Paléozoic qui est paru en 2008 et qui marquait le début d'un nouveau cycle pour The Ocean qui, alors dans cet album là, c'est un peu un avertissement puisque le groupe imaginait le funeste sort qui attendait notre planète si l'homme ne réagissait pas immédiatement. Il prédisait tout simplement la fin de l'espèce humaine donc à travers une œuvre vertigineuse, intense et cosmique qui est aussi riche en mélodie qu'en émotion. Un premier volet qui était destiné à être complété d'un second prévu pour 2020. Et vous savez quoi? Ça tombe bien puisqu'on est en 2020 et c'est aujourd'hui que sort ce fameux deuxième volet que j'ai annoncé tout à l'heure, mais je vais redire le titre parce que j'aime bien me torturer. Ça s'appelle Phanerozoic tout mésozoïque, cénozoïque. Voilà. Alors, à travers ce nouveau volet, la formation s'intéresse à la relation entre le vivant et le temps, en évoquant l'éternité des courants, la répétition des cycles, le fait que les choses sont un éternel recommencement, comme en témoigne, par exemple, le phénomène de la tectonique des plaques, qui a beaucoup nourri l'inspiration du collectif hein, pour ce nouvel opus, qui se tourne clairement vers une optique de plus en plus cinématique, plus que de simples musiciens, les membres de The Ocean finalement, ils sculptent de la matière musicale brute pour donner naissance à des atmosphères qui sont encore une fois très riches, très intenses, parfois presque touliennes. À noter que l'album qui a été produit de main de maître par le suédois Jens Bogren nous offre, tout comme son prédécesseur, la prestation plus que réjouissante de Jonas Rinkse, le chanteur de Catatonia, qui apparaît en featuring sur un titre de 13 minutes, hein, je le précise. Mais quand même, bon, le vrai héros du disque, c'est le chanteur Loïc Rossetti, qui sublime littéralement ses nouvelles compos, qu'on retrouve malgré tout. Alors, elles sont très bien, hein, les compos, elles sont magnifiques, les compos avec le chanteur, mais on les retrouve aussi en version instrumentale, et elles sont quand même de haute volée, hein, même si on enlève la voix, attention. Donc, The Ocean, c'est un groupe qui a pas peur de s'aventurer dans de nouvelles aventures. Ça veut rien dire ce que je dis là, mais ça fait rien. En tout cas, c'est un groupe qui aime prendre des risques et qui le fait encore une fois avec vraiment beaucoup de talent. On écoute un extrait de ce Phanerozoic tout Mesozoic Cénozoic avec un morceau qui s'appelle Paléocène. Tout de suite, c'est The Ocean. « C'était The Ocean à l'instant dans l'émission Check Me Load. Vous venez d'écouter le titre Paléocène. C'est un extrait du nouvel album donc qui paraît aujourd'hui, qui s'appelle Phanérozoïc. Donc c'est le volume 2 hein, de ce diptyque sous-intitulé Mésozoïque, Cénozoïque. Très très bel album pour les amateurs de son progressif, de son sludge post-metal. Voilà, il y a beaucoup d'influences. C'est très très bien fait. Ça nous vient d'Allemagne et voilà, c'est un des albums notables parmi les sorties de ce 25 septembre. Il y en a d'autres, hein, des sorties vachement cool qui sont arrivées aujourd'hui, mais on va les garder pour la semaine prochaine qui, je crois, sera un petit peu moins riche. Donc ça tombe bien parce que nous, là, il est l'heure de passer à l'interview du jour et on va s'intéresser à un groupe qui s'appelle Entropie Zéro, qui avait sorti un album en novembre l'année dernière, c'était le 22 novembre, un album qui s'appelle Mind Machine, A New Experience. Et donc, avant tout, qui est ce groupe Entropie Zéro? Donc c'est un trio originaire de Nantes qui existe depuis 2017. Il est composé de F2301 qui s'appelle François de son vrai prénom. Alors lui, c'est l'homme aux machines et puis c'est aussi le leader du groupe. C'est lui qui va répondre à nos questions d'ici quelques minutes. Et pour ce projet, il est accompagné de son frère qui s'appelle, enfin qui dont le surnom est K74, qui lui occupe le poste de bassiste. Et puis il y a aussi leur acolyte J808 ou 808, je sais pas, qui est derrière les fûts. Alors, Entropie Zéro, c'est totalement impossible de coller une étiquette sur leur style musical. On peut dire éventuellement que c'est un projet qui s'inscrit dans une esthétique cyber-rock instrumentale, puisque c'est quasiment que de la musique instrumentale, mis à part quelques rares petites exceptions très légères. C'est une musique très très inspirée par les musiques de films. D'ailleurs, c'est plus qu'un simple projet musical Entropie Zéro, puisque quand ils se produisent sur scène, ils proposent au public la projection de vidéos. Alors, le but justement pour ce public, c'est de stimuler son imagination pour que en fait chacun puisse se créer son propre film par rapport à la musique et puis par rapport aux images qu'on va leur projeter. On peut noter aussi que l'univers d'Entropie Zéro tourne essentiellement autour de la science-fiction et d'ailleurs le groupe a déjà participé à plusieurs conventions. Donc j'en profiterai peut-être d'avoir François pour lui demander si Entropie Zéro c'est finalement un groupe geek. Du rock geek, ça peut être une appellation. Enfin, on verra ça tout à l'heure avec lui. En tout cas, ils avaient sorti un premier EP en 2018 et puis donc en 2019, il y a eu ce premier album Mind Machine New Experience, qui est le prolongement de l'EP hein, finalement. Un album que j'ai beaucoup aimé, alors déjà par son aspect très cinématique. Titre très cinématique qui du coup est très propice à l'évasion, à la rêverie, mais aussi j'ai beaucoup aimé la palette extrêmement riche et variée d'influences qui sont aussi diverses que le rock, le metal, la synthwave, le post-rock, le rock progressif, des fois un petit peu jazzy, enfin il y a beaucoup de choses. Voilà, moi j'ai hâte de m'entretenir avec François et puisque je vais être en ligne avec lui d'ici quelques minutes, mais juste avant on va quand même se mettre dans l'ambiance de ce groupe Entropie Zéro en écoutant un extrait de l'album Mind Machine A New Experience. Le morceau que j'ai choisi de vous diffuser en premier, c'est Behind the Disrupt Pulsar. Et le début du morceau, moi, il me fait vachement penser à la bande-son de la série Stranger Things. Ça aussi, on demandera à François si ça fait partie de ses influences ou pas. Voici tout de suite Entropie Zéro. We'll be right back. vendredi, le métal fait son show sur Back FM. Bienvenue dans l'émission Check Me Load. Si vous nous rejoignez, à l'instant, c'était le titre Behind the Disrupted Pulsar du groupe Entropy Zero. Et aujourd'hui, d'ailleurs, on va partir à la découverte de l'univers cyber-rock instrumental du combo qui va nous présenter son premier album. Un album qui s'appelle Mind Machine New Experience, qui est paru en novembre 2019. Et pour parler de tout ça, eh bien, j'ai le plaisir d'avoir en ligne François, ou devrais-je dire F2301, qui est l'homme aux machines du groupe. Salut François et bienvenue sur Back FM.
Eh ben merci de me recevoir. Bonjour à tous. Je vais déjà faire une petite précision. C'est F2301 et non pas F2301. Mais tu pouvais pas le savoir tant que je te l'avais pas dit.
Bah, je vais t'appeler François, hein, comme ça ce sera plus simple.
Ok.
Alors pour commencer, ce que je te propose, c'est qu'on fasse un petit peu plus ample connaissance avec Entropy Zero, qui est loin d'être une formation comme les autres. Du coup, est-ce que tu peux nous présenter le groupe, nous dire comment il est né, quelles sont ses particularités, et puis surtout comment il a évolué jusqu'à aujourd'hui, quelques mois après la sortie du premier album?
Alors ça, c'est une vaste question,
oui.
Hein, je vais pouvoir être très bavard sur le sujet. Donc l'origine du groupe, donc je suis à l'origine du groupe,
d'accord,
puisque c'est moi qui ai créé le projet, qui gère l'intégralité de la partie création. Donc création, pour moi, c'est la partie musicale et la partie vidéo, puisqu'en
ouais.
fait, on a un projet qui traite de l'image et de la vidéo. Là, je viens de présenter un album, et en fin de compte, en live, on est presque sur du ciné-concert.
D'accord.
C'est-à-dire que on a de la musique instrumentale, avec donc de la vidéo qui est synchronisée sur la musique, donc c'est pas juste quelques boucles de vidéo qui tournent en fond, c'est vraiment pseudo-scénarisé, même si ça reste assez subjectif. Mais c'est important de préciser
ouais.
que c'est un ensemble en fait. Comme je dis, Entropy Zero, c'est pas juste de la musique. Donc le projet, il est né d'une envie de remonter sur scène. Hein. Moi, je fais de la musique depuis très très longtemps. J'ai fait beaucoup de choses différentes. Hein. Je suis pianiste jazz à la base.
Ah oui.
Oui. Après, j'ai fait du black metal, donc grand écart. Ensuite, j'ai fait de la pop-rock, et puis après, je faisais de la musique pour des courts-métrages, des petits jeux vidéo ou pour moi-même. Et j'ai eu envie de remonter sur scène, et je me suis dit, ok, qu'est-ce que j'ai envie de faire, qu'est-ce que je peux faire? Et donc, l'idée est venue de traiter de la science-fiction, qui est un domaine que j'adore vraiment particulièrement, et de me dire, ok, bah, je vais partir sur cette idée-là, et puis je vais faire de la musique sans me poser de limites. C'est-à-dire que je vais faire vraiment tout ce que j'aime, différents styles, c'est pour ça que c'est difficile de nous définir, parce
ouais.
qu'en fait on fait à la fois de l'électro, on fait à la fois du rock, on fait à la fois un peu de jazz, on fait un peu de plein de choses, et tout ça alimenté par les vidéos, puisque c'est aussi hein, quelque chose que j'adore faire, hein, le montage, la post-prod. Et voilà donc un peu l'origine du projet, comment je me suis dit tiens je vais créer ce projet et je vais essayer de le faire évoluer, pour me faire plaisir d'abord. Et puis dans le but aussi de stimuler l'imaginaire des gens. Pour moi, l'imaginaire, c'est quelque chose de vraiment important dans ma vie. Je trouve que c'est quelque chose de vraiment beau et qui nous permet de faire des choses exceptionnelles. Et donc l'idée, c'était de me dire, voilà, comment artistiquement je peux faire quelque chose qui fait que quand les gens y sont confrontés, eh ben c'est leur imaginaire qui prend le dessus et qui leur permet de créer des choses à leur tour. C'est aussi pour ça qu'on fait une musique qui est quasiment instrumentale, parce que quand il y a quelqu'un qui raconte, qui s'adresse à vous en chantant avec des paroles bien précises, ça focalise quand même vraiment la musique sur quelque chose et du coup, bon, y a pas vraiment lieu d'imaginer sa propre histoire. Alors que dans ce projet, moi, quand je compose une musique, j'imagine une histoire dans ma tête. C'est un peu le fil rouge qui va me permettre de créer la musique et des images. Mais comme ça reste assez vague finalement, quand on vient nous voir en concert ou quand on écoute l'album bien assis dans son fauteuil, et ben, chacun peut se réinterpréter soi-même le titre. Et un peu s'échapper au gré de ses émotions ou de sa créativité.
Et c'est vrai que peut-être maintenant, les gens ont tendance à voir leur imagination un petit peu moins stimulée,
ouais.
peut-être, hein, avec les écrans qui sont quand même omniprésents, où maintenant on a tout de suite, on a tendance finalement à moins se poser et à moins s'évader qu'on a pu le faire quand on écoutait des disques dans les années 70-80, des grandes œuvres, par exemple, je sais pas, de rock progressif, où on pouvait se laisser aller.
Complètement, ouais. Et d'ailleurs, c'est vrai que pas que dans la musique, c'est-à-dire que vous êtes à votre travail, peut-être pas toi à la radio, mais une grande partie des gens, on leur dit comment faire, quoi faire, comment le faire. La part de créativité personnelle est assez ténue. Dans la musique, c'est pareil, aujourd'hui, dans un peu plein de domaines, et je trouve que c'est dommage, et donc, voilà, c'était mettre ma petite pierre à l'édifice en disant comment je peux à la fois me faire plaisir et à la fois faire quelque chose qui me permette d'interagir indirectement avec un public. C'est-à-dire que c'est une interaction indirecte, puisque
ouais.
qui est intéressant, c'est par exemple après les concerts, les gens viennent me voir, ils disent ah bah ce titre-là, c'était vraiment c'est génial, je m'imaginais à tel endroit, à faire telle chose. Ils racontent une histoire qui n'est pas du tout celle que moi j'avais imaginée, mais en fait personne n'a vraiment raison ou n'a vraiment tort. Ce qui est intéressant, c'est de voir comment chacun est capable d'interpréter tel ou tel titre.
Et c'est vrai que c'est une musique, bon, on s'immerge directement dedans, et même si on écoute l'album en faisant autre chose, et ben finalement on finit par se laisser emporter et se laisser transporter même vers quelques rêveries, quoi.
Exactement.
Alors, Mind Machine New Experience, premier album, il se présente comme une bande originale de film. J'imagine un film plutôt de science-fiction, moi. Et en écoutant cet album, j'ai pensé à des compositeurs plutôt des années 80, comme Vangelis, Moroder, Goblin. Mais j'ai aussi pensé au duo que forment Kyle Dixon et Michael Stein, à qui on doit la musique de Stranger Things. Est-ce que c'est des noms qui font partie de vos influences ou pas du tout?
C'est des noms que je connais, mais pour moi, c'est pas eux que je citerais comme première influence.
D'accord.
Moi, par exemple, si on reste sur la musique de film, d'ailleurs, j'écoute quasiment que de la musique de film.
Hein, ouais.
J'écoute relativement peu de groupes. J'en ai quelques-uns, mais c'est pas là-dessus que je vais venir creuser. Moi, je suis un gros fan, alors c'est un peu plus efficace, mais je suis un gros fan d'Hans Zimmer.
D'accord, oui.
D'ailleurs, pour l'anecdote, j'ai vu Hans Zimmer en concert à Nantes en 2017, 2018, je sais plus, lors de sa première tournée. Et c'est un peu à l'issue de ce concert, je me suis dit, déjà, c'est hyper bien, forcément, je suis fan.
Ça doit être impressionnant de voir Hans Zimmer en
concert. Ah oui, c'est même exceptionnel. Et ce qui est bien, c'est qu'en fait, quand on écoute sa musique, on pense au film, et on est dans l'imaginaire, quoi. C'est ça qui est génial. Parce qu'on n'écoute pas juste la musique, quand il joue Batman, on voit Batman, quand il joue Inception, on pense à Inception. En même temps, il y a les musiciens sur scène qui apportent quelque chose. Et donc là, je me suis dit, ok, bon, j'ai pas le talent d'Hans Zimmer, mais je sais faire des choses. Et qu'est-ce que je pourrais pas faire un truc un peu dans cette histoire de dire, voilà, je vais proposer un truc interactif, mais interactif un peu cérébralement, quoi. Et c'est un peu de là aussi qu'est née un peu l'idée de dire, ok, je vais faire de la musique instrumentale sur scène, en live, parce que j'ai envie de faire du live, mais interactif via cet esprit de création.
D'accord.
Et donc, tout ça pour dire que je suis fan d'Hans Zimmer, et plein d'autres, hein, mais c'est plutôt cette vague-là qui pour moi est intéressante. Après, la partie... musique années 80, je suis pas forcément un fan des musiques des années 80, c'est que dans Entropy Zero, il y a beaucoup d'instruments différents, des instruments acoustiques, classiques, une batterie acoustique, une guitare électrique, un piano, un violoncelle, mais il y a beaucoup de synthé, au sens large, et c'est ça aussi qui apporte cette touche années 80, puisque l'apogée du synthé, c'était un peu les années 80.
Oui.
Pour autant, ça veut pas dire qu'on ait une musique des années 80, puisque moi je me tourne plutôt vers la science-fiction futuriste, plutôt que la science-fiction rétro.
On le voit bien d'ailleurs à travers la pochette de l'album, qui est pas du tout années 80, bien au contraire, hein, elle est bien 2020, y a pas de souci.
Donc là, la pochette, sublime pochette de l'artiste Atom Cyber, qui a vraiment sa touche à lui. Donc là, c'est pareil, hein, par rapport un peu à l'histoire de l'album, je souhaitais une pochette représentant la Mind Machine, qui est une machine en fait qui permet à chacun de... Ça reprend ce que je viens de vous dire, en fait, de vivre une expérience unique à travers ses souvenirs et ses créations personnelles. C'est symbolique, hein, c'est simplement pour dire que chaque nouveau titre, tout est possible en fin de compte.
Donc du coup, finalement, la Mind Machine, c'est quand même un début de concept.
Oui, alors, c'est le premier album, c'est pas un album concept au sens pur et dur, parce que, voilà, il y a une idée derrière avec la Mind Machine, il y a une espèce d'unité un peu dans les... Enfin, il y a une continuité dans les morceaux. Mais c'est pas ce que j'appelle vraiment un album concept.
Plutôt un fil rouge?
Plutôt un fil rouge, ouais. Alors que le deuxième album sur lequel j'ai travaillé grâce ou à cause du Covid, lui va beaucoup plus développer l'univers rémanent, enfin l'univers permanent d'Entropy Zero. Il y a vraiment une histoire, RDSF, qu'est-ce qui on est, qui en tant que membre d'Entropy Zero, qu'est-ce qu'on fout là, pourquoi on est là, quelle est un peu notre quête quelque part. Et voilà, il y aura beaucoup plus d'explications et d'histoires derrière. Là, ce sera vraiment un album concept qui expliquera en partie d'où sort la Mind Machine. Parce que pour l'instant, on sait juste que c'est une machine qui permet de faire des trucs, de vivre des expériences. On ne sait pas trop pourquoi elle est là, à quoi elle sert vraiment, si ce n'est de vivre des expériences et son utilité in fine, quoi.
D'accord, donc on va en savoir un petit peu plus avec ce prochain album. Alors du coup, tu nous as bien expliqué qu'avec Entropy Zero, on s'immerge dans un monde de science-fiction qui fait écho au cinéma, aux jeux vidéo. Est-ce qu'on peut qualifier Entropy Zero de groupe geek?
Oui, sans problème. Moi, je suis un geek, hein, j'ai pas de problème avec ça. D'ailleurs, mon frère aussi, hein, mon frère qui est K74. D'ailleurs, en partie live, on a deux types de live. On a les lives type café-concert, scène avec des groupes, etc. Et puis, on a tout ce qui est partie convention pop culture. Ça marche très bien aussi.
Bah oui,
là, on va faire des grosses scènes parce que un avantage et un inconvénient du projet, c'est qu'on est, indépendamment de savoir si ce qu'on fait c'est bien ou si c'est pas bien, au moins on est un peu original. C'est-à-dire que des groupes qui font plein de styles comme ça dans la science-fiction en ciné-concert, personnellement j'en connais pas. Je connais pas tout, hein, mais au moins moi j'en connais pas. Et du coup, bon, l'inconvénient c'est qu'on n'est pas dans une case, et si on n'est pas dans une case, malgré tout ce que peuvent penser les gens, ils ont du mal à savoir, ah mais tu fais quoi? Tu veux faire un concert, mais alors avec qui je vais te faire jouer? Comment ça? Enfin, tu fais du rock, quoi. Non, je fais pas du rock. Je fais l'électro, je fais du rock, je fais du métal. C'est un peu compliqué à présenter et à comprendre. Quand on est en convention, c'est pas le même état d'esprit parce que les gens viennent pas pour un style de musique, ils viennent pour un univers.
Ouais.
Et là, ils posent pas la question quel style de musique tu fais, ils posent la question quel univers tu travailles. Et là, on dit bah on fait de la science-fiction. Et là, c'est limpide. C'est deux approches complètement différentes.
Donc, tu nous as déjà bien expliqué ce concept qui n'est pas un concept purement musical, mais où l'image est très très présente. Hein. Est-ce qu'on peut revenir deux minutes justement sur cet artwork qui est vraiment très beau, qui fait penser pour le coup à du jeu vidéo. Hein, il y a des fois des jeux vidéo qui ont de très belles images dans ce style. Donc, elle est signée, tu nous as dit, par Atom Cyber. Tu peux nous en dire deux mots de cet artiste que je trouve vraiment très talentueux?
Eh ben, c'est un artiste que j'ai découvert à travers les réseaux sociaux, à travers des recherches diverses et variées.
D'accord.
Je suis tombé sur son travail. Il a vraiment une touche à lui, quoi. Mm. C'est-à-dire que, en fait, il est spécialisé dans la représentation des robots un peu féminins, avec une particularité dans son dessin, je trouve. Alors moi, j'ai pas forcément les mots pour expliquer exactement. Je pense que le mieux, c'est d'aller voir ce qu'il fait. Vous allez tout de suite comprendre qu'il y a toujours une constante. Il a vraiment sa touche. Et en discutant avec lui, du coup, musicalement, on s'est rendu compte qu'on avait des choses en commun. Et donc, pour cet album, bah, je voulais faire quelque chose d'original, parce que je voulais qu'on voit la Mind Machine, qu'on représente Easy, donc qui est l'intelligence artificielle robotique sur la pochette. Donc, c'était obligatoire de passer par un artiste. Et donc, je me suis dit, bah, ce serait une bonne idée de faire ça avec lui. Et du coup, comme on s'entendait plutôt bien, en termes généraux, je suis assez exigeant sur des choses, mais là, j'ai rien eu à dire. Il a sorti le truc. J'ai dit, bon, on va peut-être changer ça aussi, histoire de le challenger un peu. Mais globalement, il a sorti le truc direct. Pochette qui est vraiment magnifique.
Ouais.
Et comme tu disais, qui fait un peu référence aux jeux vidéo dans le rendu. Parce qu'on est, comme tu disais, on est des geeks. Hein, donc, on est aussi fans de jeux vidéo. Et donc, je trouve que ça collait vraiment bien à l'univers. Quoi.
Et pour dessiner la pochette, vous lui avez donné la musique ou il a bossé comme
ça? Je lui ai dit, voilà, je veux une grosse machine... avec quelques détails, je veux le robot. J'avais fait des esquisses, moi, de mon côté, que je suis aussi friand de 3D. Je faisais de la 3D. J'avais dessiné quelques trucs, bricolé, récupéré des trucs d'inspiration à droite à gauche. La musique, et puis je lui ai dit, bon, bah maintenant, vas-y, hein, fais ce que tu sais faire. Et il m'a sorti ça.
Alors, pour continuer à parler un peu d'images, l'an dernier, vous aviez sorti un premier clip vidéo. Hein, c'était la chanson Behind the Disrupted Pulsar qu'on a écouté juste avant l'interview. Et j'ai vu sur Facebook que tout récemment, vous aviez tourné un tout nouveau clip.
Ouais, c'est ça. Alors, en fait, la semaine dernière, on a tourné un clip dans un cinéma avec des cosplayers.
D'accord.
Et c'est un titre qui est dédié aux jeux vidéo. Donc, on a du gros niveau en termes de cosplayers. Enfin, pour moi, c'est plus des costumiers que des cosplayers. Donc on a du gros niveau, il y en a qui font les Coupes de France et tout.
Ah oui.
Donc on a du, pour ceux qui connaissent, du Halo, du Fallout, du Mass Effect.
Pour ceux qui aiment le jeu vidéo.
Voilà. Et donc voilà, on a fait des scénettes, une petite nouvelle génération parce que on retrouve les ingrédients en Tropi Zéro mais un peu plus racé, c'est-à-dire que l'électro c'est vraiment de l'électro, le rock c'est vraiment du métal pour le coup. Mm. Et avec ces cosplayers qui viennent jouer avec nous, on a fait des espèces de scénettes pour les mettre en avant. Et objectivement, je pense que ça, le rendu, c'est vraiment Hollywood. Hein. Enfin, j'ai hâte de présenter le clip parce qu'il y a vraiment un énorme step par rapport au premier clip qui déjà était pas mal. Là, c'est vraiment, enfin, vous jugerez par vous-même, mais je pense que ça va être plutôt pas mal. Et donc, ce sera un single quelque part puisque l'album sera pas sorti.
D'accord. Et c'est prévu pour quand à peu près la sortie du
clip ? Avant la fin de l'année. Je suis encore sur le montage là, mais.
Ok, bon, bah on va suivre ça de toute façon sur les réseaux sociaux.
Oui, de toute façon, le teasing est parti, donc je m'arrête plus maintenant.
Et j'ai vu aussi que vous aviez profité du confinement pour sortir sur YouTube une vidéo sur la bande originale du film Dune de David Lynch.
Oui. Alors Dune, ouais, effectivement, David Lynch, c'est un film que j'ai vu. Alors c'est un film un peu kitsch. Hein, y en a qui détestent.
Ouais, il y a ceux qui adorent et ceux qui détestent.
Voilà,
en général,
c'est ça. En général, c'est tranché. Moi, je l'ai vu quand j'étais petit et j'ai trouvé ça bien. Ça m'avait vraiment marqué.
84, je crois, la date de la.
Voilà, ouais. Donc bon, j'étais petit. Hein. Enfin, je l'ai vu après 84. J'étais oui. Pas si petit que ça quand même. Et ça m'avait, visuellement, ça m'avait marqué. Et du coup, bah là, vu le projet, je me suis dit, ce serait une bonne idée. En plus, comme il y avait le remake de Denis Villeneuve qui sortait, il y a un an et demi, je me suis dit, ah, ce serait une bonne idée de reprendre le thème du vieux film, qui est, les thèmes étaient vraiment excellents.
Il était signé Toto, hein, d'après.
Voilà. Alors, il a pas fait tous les thèmes, mais il en a fait certains. Et de faire un medley du film, donc condenser le film en 5-6 minutes, ce qui était un gros challenge, ouais. Mais bon. Alors, on a commencé par la jouer en live, elle était plutôt bien accueillie, même plutôt très bien. Et du coup, j'ai dit, bah tiens, je vais poster la vidéo sur YouTube, et voilà, quoi.
Donc, j'invite tous nos auditeurs à aller faire un petit tour sur YouTube hein, pour aller voir cette vidéo qui est vraiment sympa, quoi. Moi, j'ai beaucoup aimé, en tout cas.
Donc là, on est vraiment sur de la reprise, c'est-à-dire que c'est les thèmes qui sont adaptés.
Et oui, mais alors, l'adaptation, ça peut des fois être à double tranchant, puisque faut arriver à y apporter quelque chose. Et là, en l'occurrence, on la retrouve finalement en 2.0. Hein,
ouais, c'est un peu ça, ouais.
Vous apportez vraiment quelque chose par rapport à l'original, et c'est ça qui est super intéressant. Alors du coup, l'album, on l'a dit, hein, il est sorti en novembre 2019.
Oui.
Pour revenir un petit peu au live avec le Covid, je pense que vous n'avez pas encore pu le défendre sur scène comme vous aviez envie, comme il se devait. Est-ce que vous avez quelques dates qui commencent à se profiler là, ou est-ce que c'est encore trop flou?
Ah, c'est la seule certitude, c'est qu'on compte les dates qui s'annulent.
Ouais.
C'est sûr. Là, on a deux dates en octobre normalement.
D'accord.
On a une date à une petite convention au Wasabi en Nantes et on fait un gros Geekfest à Angers. Donc deuxième et troisième week-end d'octobre. Pour l'instant, c'est maintenu, par exemple. Ah, après, on sait jamais jusqu'au dernier moment ce que ça peut donner. Ouais, j'espère qu'on va en faire au moins une sur les deux, parce que c'est un peu tragique en ce moment, et on espère, on a envie de remonter sur scène aussi.
Bah oui, j'imagine que ça doit commencer à être long, là, pour vous.
Ouais, c'est très très long. Et puis, en plus, on a des nouveaux titres qu'on voudrait tester. Ouais. Enfin, il y a plein de nouvelles choses. On a un nouveau décor. Enfin, on a un petit peu des éléments de décor. On a des nouvelles tenues de scène. J'ai envie de dire que, pour le coup, le monde après Covid sera le même qu'avant, mais le Entropie Zéro après Covid sera pas le même.
Donc, affaire à suivre, en espérant donc que ces dates se maintiennent, et puis que vous puissiez reprendre les concerts. Nouvel album pour 2021?
Oui, je pense.
D'accord. Bon, pareil, hein, on suivra tout ça de toute façon sur les réseaux sociaux, puisque vous êtes présents. Et puis, j'invite encore une fois nos auditeurs à aller faire un petit tour sur YouTube pour découvrir quelques petites vidéos vraiment sympas. En tout cas, merci François de nous avoir présenté Entropie Zéro et ce premier album qui s'intitule Mind Machine A New Experience. Il est disponible en version physique dans une très belle édition Digipack, en numérique également.
Oui, en numérique également, ouais.
Ouais, je pense qu'il me semble qu'on le trouve sur les plateformes de streaming aussi.
Oui, il y a plusieurs supports un peu partout en fait.
Donc voilà, aucune excuse pour ne pas aller écouter le son d'Entropie Zéro. Et puis ça tombe bien puisque justement on va en écouter un deuxième extrait de cet album pour conclure l'interview. Alors pour mettre un peu les gens vraiment dans l'ambiance de comment débute l'album, on va écouter Memory Process puisque c'est le premier morceau du moins qui arrive après l'introduction, avoir été accueilli par The Mind Machine.
C'est ça, absolument.
Merci beaucoup François.
Eh ben merci beaucoup à vous et puis j'espère à bientôt et puis bonne écoute surtout.
Donc c'est parti, voici Memory Process de Entropie Zéro, c'est tout de suite, c'est sur Bac FM. Salut François.
Ciao ciao.
J'espère que ce petit voyage dans le cyber vous a plu. C'était Entropy Zero à l'instant avec le titre Memory Process, extrait du premier album du groupe qui s'appelle Mind Machine New Experience, qui est paru il y a quelques mois déjà puisque c'était en novembre 2019. Mais voilà, le Covid étant venu un peu bousculer tous les plans de promo, et ben le groupe n'avait pas encore eu le temps de faire des interviews, des chroniques, tout ça. Donc voilà, maintenant c'est bon, vous pouvez aller écouter Entropy Zero. Franchement, moi c'est un groupe que j'aimerais beaucoup voir sur scène avec les projections vidéo et tout. J'ai écouté, c'est ce que je disais à François dans l'interview. Pendant que j'écoutais l'album, voilà, en même temps, je travaillais sur autre chose et au bout d'un moment, j'ai un petit peu finalement lâché prise sur ce que j'étais en train de faire, sur mon travail, pour me laisser aller sur la musique d'Entropy Zero. Donc voilà, petit coup de cœur pour ce groupe originaire de Nantes. Allez, ça y est, il est déjà l'heure, parce que je suis même en retard hein, d'ailleurs, et donc il est plus que le moment de se dire au revoir sur un air de reprise avec la rubrique Sortez Cover. Et aujourd'hui, on va faire un grand écart temporel entre la fin des années 60 et le milieu des années 2010, puisqu'on va redécouvrir la chanson la plus connue des Moody Blues dans une version doom gothique signée de Oceans of Slumber, un groupe texan mené par la talentueuse Camille Gilbert, que j'ai évoqué en début d'émission, si vous avez bien suivi, puisque j'en ai parlé quand j'ai présenté le nouvel album d'Aireon. Et pour cause, c'est que Camille Gilbert, elle a été choisie par Ariane Lucassen pour incarner l'héroïne de son nouvel opéra métal. Et c'est justement précisément en écoutant cette reprise de Night in White Satin des Moody Blues qu'il a compris que c'était à cette sublime voix qu'il souhaitait confier ce premier rôle féminin, celui de cette femme amoureuse du fantôme, hein, finalement. Du coup, puisque Ariane Lucassen s'y intéressait, j'ai eu envie de m'y intéresser à mon tour, à cette revisite qui lui avait provoqué tant d'engouement. Et j'ai pas été déçu, la preuve c'est que j'ai choisi de vous la diffuser aujourd'hui. Donc, Oceans of Slumber, c'est un groupe qui a vu le jour à Houston en 2011, et c'est 3 ans plus tard que Camille Gilbert va en devenir la frontwoman. Alors, le combo mélange des sons métal progressif, atmosphérique, doom. Ils ont sorti 4 albums et le dernier, en fait, il est tout récent puisqu'il est paru le 4 septembre. Donc, je me suis dit que si j'arrivais à mettre la main dessus, je le présenterai dans cette émission. On diffusera un extrait de ce nouvel album. Et puis, plus précisément maintenant, en ce qui concerne la reprise de Night in White Satin, elle figure sur leur 2e album qui s'intitule Winter et qui date de 2016. Donc, cette reprise de Night in White Satin, elle est sortie 49 ans après la chanson originale, celle des Moody Blues, puisque le 45 tours, il est arrivé dans les bacs le 10 novembre 1967. Juste la veille de la sortie du concept album Days of Future Past, qui est sorti donc, par conséquence, le 11 novembre. The Moody Blues, qui est d'ailleurs un groupe totalement précurseur en matière de rock progressif, puisqu'il est un des premiers à avoir mélangé du rock avec des grosses orchestrations symphoniques qu'on retrouvait dans cet album-là, précisément. Et même si ce groupe, qui est originaire de Birmingham, est surtout resté dans les mémoires pour ce tube qui est Night in White Satin, il faut quand même souligner qu'en tout, ils ont vendu près de 70 millions d'albums à travers la planète, dont la plupart ont été certifiés disques d'or et ou disques de platine. C'est bien évidemment le cas de l'album Days of Future Past, dont est extrait Night in White Satin, qui d'ailleurs, ce morceau va se hisser à plusieurs reprises au sommet des charts, ça va être régulier dans les années 60, dans les années 70, dans les années 2010 également. En France, la chanson, elle va faire un carton précisément durant le printemps 68, et d'ailleurs, elle est souvent utilisée comme bande sonore quand on évoque les événements de mai 68. Alors, quant aux plus jeunes, ceux qui n'étaient pas nés à l'époque, ils ont pu également découvrir ce chef-d'œuvre de la musique plus tard au cinéma, par exemple dans Dark Shadows de Tim Burton, ou alors dans le remake du film Halloween de Rob Zombie. Et puis pour ceux qui n'aiment pas le cinéma, qui préfèrent les séries, on les a entendus à la télé, puisque cette chanson elle est apparue dans des séries comme Fringe ou comme Killing Eve. Donc je crois qu'on peut affirmer sans problème que cette chanson absolument poignante qu'est Night in White Satin des Moody Blues, elle fait partie intégrante de la pop culture maintenant. La voici justement revue et corrigée par les Américains de Oceans of Slumber. Quant à nous, on se donne rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même station. En attendant, stay metal, stay rock'n'roll. Salut à tous!
you.